Holimel souhaite améliorer sa rentabilité, en particulier en vendant davantage de produits à valeur ajoutée. Les produits de commodité représenteraient alors un pourcentage moins élevé des ventes. Aussi, soulignait le premier vice-président de Holimel, Paul Beauchamp, l'entreprise veut augmenter ses capacités, très vraisemblablement par de nouvelles acquisitions. Paul Beauchamp parle du contexte.
Quel est le modèle qu'on a retenu? Bien, c'est des efforts énormes. Pour amener dans la stabilité de nos résultats, il a fallu créer de la valeur, il a fallu contrôler nos coûts, parce qu'autrement que ça, on n'est pas capable de compétitionner. Le temps du produit frais, je ne dirais pas qu'il est révolu, mais il va falloir qu'il soit bien niché pour être capable de garder sa place dans le marché puis garder toute sa valeur. Nous, ce qu'on a évidemment favorisé, c'est un modèle qui favorise l'intégration. Puis l'intégration peut avoir un sens un petit peu plus large. Ça peut être de l'intégration, puis ça peut être de la coordination. Parce que ce qui sera toujours le plus intéressant pour une entreprise comme nous autres, ça va être de maintenir les producteurs autonomes, parce qu'il y a de l'expertise, il y a de la main-d'œuvre, il y a des capitaux qu'on n'a pas besoin d'investir à leur place. Fait que la coordination, c'est souhaitable. Lorsque ce ne l'est pas, on va parler d'intégration. Puis l'intégration, ça peut être soit parce qu'on décide de le faire seul, soit parce qu'on va décider de le faire en partenariat. Mais quand on regarde, la vente de porc se fait en dollars, l'achat est en dollars US, les achats de moulets. Ensuite, le frais, bien, c'est la vente de viande qui se fait en US. Les achats se faisant en US, donc, et la surtransformation, bien, où les indicateurs sont toujours aux US, parce que Metro est capable de trouver la référence de prix qui a servi à mettre la viande dans notre jambon, donc, va venir travailler sur notre coût de transformation. Donc, tout s'intègre avec une marge qui est relativement faible et pratiquement connue de la part des grands acteurs. Mais c'est vraiment une stratégie où on va tenter d'aller vers la ferme lorsque c'est nécessaire, d'aller vers les produits à davantage de valeur, produits surtransformés, produits de niche, à la fois comme on l'a fait dans le partenariat avec le groupe Robitaille, mais comme l'investissement qu'on vient de faire en achetant Alimentrion dans des produits de viande sec et semi-sec. La croissance, bien, elle s'est effectuée chez nous, puis ça vient un peu donner un élément de notre stratégie. 53 % de notre croissance depuis 1997, depuis une vingtaine d'années, c'est fait par l'acquisition ou des partenariats. C'est la façon de croître plus rapidement que le marché. Le 43 %, c'est un peu la croissance qu'on aurait pu connaître. Si vous voulez, dans Valeur, il y a 2 % par année, dans le port avec certaines périodes d'augmentation, des conventions de mise en marché, etc. Donc, vraiment, l'élément de croissance, ça se fait. On parle de quand même 24 acquisitions, et dans le 24, ça n'inclut pas toutes les transactions qui ont lieu au niveau des fermes. Donc, marché extrêmement actif. Puis, on est un petit peu confronté à ça à l'heure actuelle dans l'industrie canadienne. Beaucoup d'entreprises familiales. La question de la relève, c'est aussi vrai dans nos entreprises de transformation que ce l'est à la ferme, que ce l'est dans le secteur de l'alimentation animale. Et il y a beaucoup de situations qui vont générer soit des partenariats, soit des fusions, soit des acquisitions. Le marché, en plus, à ce moment-ci, offre des multiples incroyables au niveau de la protéine, au niveau de l'alimentaire et de l'agroalimentaire. Le marché est actif, c'est incroyable. On le voit parce qu'on est sollicité. Il y a toujours une entreprise qui est à vendre à quelque part. Et nous sommes sollicités pour participer au processus d'enchères. Et je peux vous dire qu'il faut être déterminé pour faire une acquisition parce qu'il y a un prix à payer, à cause de la situation de marché qui est extrêmement favorable aux activités agricoles et agroalimentaires. Le modèle sur la valeur ajoutée, bien, c'est pas compliqué. Plus de désossage, plus de chill, plus de surtransformé, plus de valorisation des sous-produits. Donc, il faut être dans le plus. Et ça, c'est la raison pour laquelle on investit à Saint-Esprit, qu'on investit à Yamachiche, qu'on a investi à Vallée-Jonction. On le fait dans les produits de valeur aussi. Donc, plus de valeur pour aller tenter de chercher toujours le dernier sou qui nous manque dans notre modèle. La performance, ben, c'est le contrôle des coûts de conversion. C'est un combat de tous les jours quand vous avez, dans mon 30 % de tantôt, là, décortique, Il y a 18 % c'est le coût de la main-d'œuvre. De mon 100 % il y a 18 % c'est le coût de la main-d'œuvre. Vous avez vu le nombre d'employés qui sont régis par des conventions collectives. Ça fait qu'il y a une croissance bon an, mal an autour de 2 %. Ce qui veut dire qu'il nous faut, à chaque année, réussir à battre le coût ou l'augmentation des coûts de la main-d'œuvre et des autres coûts pour être en mesure de rester compétitif. Parce que le sou chez Olimel d'efficacité, ça représente à la fin d'année un autre 7 millions. Ça fait que si tu ne réussis pas à battre ta croissance de coûts puis tu as un taux de change défavorable, les chiffres peuvent basculer extrêmement rapidement dans un marché de commodités comme celui qu'on le connaît. Ça fait que c'est un environnement qui est très exigeant, qui est fragile, somme toute, mais dans lequel on croit, et c'est la raison pour laquelle on a usé de stratégies de diversification pour pas juste être dans le frais, pas juste être dans le frais brut, mais dans le frais à valeur ajoutée, puis d'être dans les produits transformés, puis dans les produits surtransformés de niche. Donc, de créer une chaîne pour être capable d'absorber les différentes fluctuations de chacun des maillons. Parce que quand ton fret coûte très cher, tes activités dans le transformé perdent de la rentabilité. C'est quand on regarde l'entreprise, il faut éviter de tomber dans le piège de dire « ça va bien dans tel secteur ». Oui, mais dans les autres. Il faut le regarder globalement pour être en mesure d'avoir la perspective juste puis que chaque secteur puisse continuer d'opérer. Bien, c'est des investissements requis pour demeurer plus compétitif. Je l'ai dit, on est en mode acquisition. On en a fait quelques-unes acquisitions cette année. On en a plusieurs dans nos cartables. Je l'ai mentionné, nous sommes sollicités de toutes parts. Mais juste pour vous donner un petit peu une perspective, des investissements au cours des 5 dernières années, il y a eu presque 500 millions d'investissements en acquisition. Les remplacements statutaires, bien ça, c'est juste pour garder notre parc en bon état, 350 millions, 360. Puis les investissements en rentabilité, donc pour aller chercher des valeurs additionnelles, on parle de près de 400 millions d'euros. Donc, on a une belle entreprise. Elle atteint un beau niveau de maturité, mais pour la garder en mouvement, c'est des investissements de la taille de celui-ci. Puis des projets majeurs, bien, Yamachiche, on parle de 120 millions, les immobilisations juste pour améliorer le bien-être animal, on parle de près de 60 millions dans nos installations. Il n'y a plus de petits chiffres chez nous. Les hausses de capacité, bien là, on parle évidemment de ce qu'on a fait à Saint-Esprit, puis ce qu'on est en train de faire le volet Saint-Esprit, puis certains autres dans l'Ouest et ailleurs. Les maternités collectives, c'est quand même près de 50 millions de dollars qu'on va devoir investir pour soutenir la production chaptelle, puis dans l'ensemble des autres. Donc, vous voyez, c'est extrêmement majeur comme environnement, puis Dieu sait que là, on doit remercier nos propriétaires qui ont cru au projet de développement, puis qui investissent dans l'entreprise. Évidemment, je parle de la Fédéré, mais je parle de groupe Brochu, je parle de groupe Robitaille, je parle de la famille Trahan, qui soutiennent le plan de croissance de l'entreprise. Sans ces propriétaires qui croient au développement de l'entreprise, puis de la conquête des marchés à partir d'ici, ces chiffres-là n'auraient jamais pu être possibles de réalisation, puis la croissance d'entreprise au bénéfice l'industrie du Québec et du Canada n'aura pas pu être réalisée. Rapidement, des enjeux, là, l'approvisionnement, c'est un enjeu. La croissance, dans volage, on le dit, ça n'explosera pas. C'est une réalité. Dans le port, on l'a vu, diminution des volumes, de la difficulté à maintenir dans certaines autres régions, à moins d'investissement de la part de l'entreprise, on va devoir faire face à une stagnation, à moins qu'il y ait des projets d'acquisition comme celui qu'on vient de faire en Ontario, dans la volaille. Sinon, ça va prendre davantage d'imagination pour soutenir la croissance de nos opérations. La main-d'œuvre, on entend tous parler, évidemment, il y a pénurie. Heureusement, chez nous, les efforts déployés par nos ressources humaines ont fait en sorte que jusqu'à maintenant, aucun de nos projets n'a été pénalisé par l'absence de main-d'œuvre. On a eu des décalages, on aurait aimé mieux l'avoir le mois passé puis avoir arrivé le mois prochain, main-d'œuvre, mais on réussit sur une période, quand on parle un petit peu d'horizon, à bien combler nos problèmes de main-d'œuvre. Le problème qui se pose, par contre, c'est qu'avant ça, on faisait une sélection dans notre main-d'œuvre. Là, on est content d'avoir de la main-d'œuvre. Et ça, je vous dis que ça fait une grosse différence, pas nécessairement aujourd'hui, parce qu'on est content de l'avoir, il y a quelqu'un qui travaille. Mais quand on va regarder en termes qualitatifs, au fil des ans, on va peut-être découvrir d'autres réalités, parce qu'il y a peut-être des employés qu'on n'aurait pas dû retenir, qu'on a retenu parce qu'on est en manque évident. Et l'impact que ça a, c'est quand on parle de valeur ajoutée, dans notre industrie, parce que la mécanisation n'est pas rendue à un point tel qu'on peut se priver de la main-d'œuvre, bien au contraire, la valeur ajoutée, et ça fait avec la main-d'œuvre. Ça fait que si tu manques de main-d'œuvre, tu réduis ta valeur ajoutée, tu reviens dans le produit de base, tu deviens moins compétitif. Ça fait qu'il y a comme un danger extrêmement important dans notre secteur, celui de l'alimentation, celui de la viande, sur les valeurs ajoutées, parce que ça prend de la main-d'œuvre. L'environnement, très brièvement, bien, vous le savez, je veux dire, on vit des problèmes d'environnement. Nous sommes des gros utilisateurs d'eau, tant dans la valeur que dans le port. Je n'ose pas vous donner des chiffres, je veux vous faire peur, tellement on utilise. On investit pour réutiliser l'eau. On a des contraintes, évidemment. L'Agence canadienne nous demande de la sanitation d'innocuité. Ça nécessite de l'eau pour y arriver. Mais ça en prend tellement que là, on se retrouve dans des situations où les municipalités qui sont en croissance, on arrive au bout de leur capacité en termes d'utilisation d'eau. Et là, ça prend des investissements majeurs. Puis après ça, tu as ton rejet d'eau dans le milieu récepteur. Monsieur le député, c'est de quoi je parle. Et là, à ce moment-là, il faut investir pour traiter nos eaux. Investir pour traiter nos eaux qu'on prend, puis investir dans le traitement des eaux qui sortent, puis dans la consommation, on a un problème. Le problème de voisinage, là, parce que tu as beau mettre ton usine aujourd'hui en plein milieu du champ, le développement fait en sorte que le champ, il se remplit, c'est pas long. Puis là, tu vois apparaître des troubles de voisinage parce que c'est le transport, parce que c'est les horaires de travail. Pour ceux qui ont eu l'occasion d'aller à Saint-Esprit, à l'époque, l'usine était assez dans le champ. Vous irez faire un tour pour le fun avec le Tim Hortons puis le Subway qui est en avant, puis la station-service. Je jasais avec M. Arnois qui me disait que c'est une de leurs stations qui a le plus de trafic. Vous voyez le trafic qui est autour de l'usine. L'usine est rendue comme un peu serrée. À l'époque, on était en plein milieu du champ, puis ça, on ne parle pas d'il y a 25 ans, là, c'est en moins de 10 ans. Cette réalité-là va mettre énormément de pression sur ce qu'on fait ici. Si je reviens sur la main-d'œuvre, un des éléments qui va favoriser soit des fusions, des acquisitions, c'est que même si la matière première est disponible, si tu n'as pas la main-d'œuvre, je pense que tu as un petit problème. Ça fait qu'en date d'aujourd'hui, c'est plus facile de croître en allant acheter ton voisin qui dispose déjà de main-d'œuvre. Les accès aux capitaux, bien évidemment, pour soutenir le développement, vous avez vu les sommes qui sont appréciables. Puis la gestion des risques régionaux, ça, c'est les régions, ça peut être régions à l'intérieur du Canada, ça peut être des régions aussi à travers le monde. La diversification, ça devient extrêmement important en termes de sources d'approvisionnement, c'est vrai en termes de marché. On le voit au niveau sanitaire, on a été chanceux avec la collaboration de l'industrie au Québec, là, on a géré la crise là, de la diarrhée épidémique porcine d'une façon magistrale, on a fait l'exemple au Canada. Puis on sent que ça a fait l'exemple parce que je le vois la façon dont l'Alberta réagit. Mais il en demeure pas moins que des risques sanitaires, il y en a. Il y a des risques de dérive. Puis ça, bien, à un moment donné, la concentration fait en sorte que tu es plus élevé. Tu as peut-être intérêt à te déplacer tes activités pour desservir aussi tes marchés. Ça fait que c'est plus facile d'approvisionner en saucisses fraîches Costco dans l'Ouest à partir de l'usine de Red Deer que comme on le faisait auparavant avec l'usine de la Fernandière à Trois-Rivières. Question de durée de vie, mais ça fait partie aussi de la gestion des plans B. Tu ne peux pas avoir des grosses usines si tu n'as pas un plan B, parce que ton client, que je vous parlais tantôt, qui était le gros dans volaille, mais qui il peut être aussi un gros dans produits transformés, lui, il veut s'assurer que demain matin, il va avoir un produit. Sans ça, sa business arrête. Ça fait que la notion des plans B fait en sorte que la concentration dans un seul établissement peut être problématique. Ça me dit, ouais, mais il y en a qui pensent différemment de vous autres. Regarde Maple Leaf, tu es en train d'investir dans Valeur dans une usine, il l'a fait. C'est une gestion de risque. Il décide que c'est comme ça que ça va passer, mais le jour où ça va arrêter, il n'y a plus un de ses clients qui est approvisionné. Là, ça devient des stratégies qui sont individuelles, à très court terme. J'aurais pu en parler plus longtemps, mais dans le fond, est-ce que c'est possible? Moi, je vous dirais, en ayant fait le tour de l'email, de nourrir le monde à partir d'ici, bien, moi, je pense que la réponse est claire. Elle est très, très claire dans notre esprit chez Olimel. Elle est vraie au moment où on se parle au niveau des gestionnaires. Elle est vraie au niveau de la vision des propriétaires. Ce qu'il nous reste à voir dans le temps, c'est à quelle vitesse, quel rythme, avec qui on va réussir à le faire.
Ici Lionel Levac. Olimel, comme l'ensemble du secteur porcin, sera à surveiller au cours des prochains mois. des décisions d'affaires devront être prises, pas seulement chez les transformateurs d'ailleurs. Les agriculteurs, producteurs de porc, verront à la suite de la décision attendue de la Régie des marchés agroalimentaires sur le partage des recettes de la mise en marché, si les nouvelles conditions, éventuellement, leur conviennent. Si les agriculteurs avaient gain de cause et obtenaient davantage du marché, peut-être que dans ce contexte, ce sont les transformateurs qui réévalueront certaines de leurs activités. À suivre absolument. Au revoir.